un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Delphine Jaffet s'entretient avec Didier Deninx, une émission enregistrée en 2014.
À voix nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffet rencontre Didier Deninx. Ce soir, le tournant des années 80.
Bonsoir Didier Deninx.
Bonsoir.
Vous avez publié donc votre premier roman, Mort au premier tour, en 1982 aux éditions du Masque. Vous avez alors 33 ans, mais vous n'allez pas continuer de publier dans cette collection. On vous suggère de frapper à la porte de la série noire. Et qu'est-ce que ça signifiait pour vous à cette époque-là d'entrer dans la série noire qui publiait des auteurs de romans noirs mondialement reconnus à cette époque-là, notamment américains?
La série noire, moi, je ne voulais pas m'y adresser. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. Et même quand j'ai envoyé mes manuscrits et que j'ai reçu un télégramme des éditions du Masque, je me rappelle, j'ai ouvert le télégramme et j'ai dit à Jocelyne, je dis, ça ne servait à rien, je les envoie, tu vois, ils veulent que j'aille les reprendre. Et elle prend le télégramme, elle me dit, non, ils te demandent d'aller les voir. Je dis, ouais, pour reprendre mes manus. Et j'y suis allé, je suis tombé sur les directeurs de la série noire. Il y avait Soula et Mounier qui étaient là. Et ils m'ont accueilli les bras ouverts. J'avais envoyé 3 manuscrits qui avaient été refusés, les 3 par les éditions du Masque. Et ils m'ont accepté sur le champ les trois manuscrits. Donc, Meurtre pour mémoire, Le Jean inachevé, puis je crois le Der des Der. Donc, d'un seul coup, j'ai signé 3 contrats. Et il y avait un échéancier de publication de mes textes, un texte tous les 4 mois. Donc, d'un seul coup, j'ai un plan marketing absolument d'enfer comme ça, mais qui n'était pas prévu. Et donc les livres sont sortis de 4 mois en 4 mois comme ça. Et comme les livres étaient très différents et un petit peu décalés comme ça, ça a eu beaucoup d'impact, quoi.
Et c'est vous qui avez choisi de publier en premier Meurtre pour mémoire ou c'est vous?
Non, c'est moi qui ai choisi. Alors, c'est assez curieux parce que c'est pas dans l'ordre chronologique de la vie du personnage. Le personnage.
C'est votre personnage qui est l'inspecteur Cadin, voilà, qui est déjà présent dans votre premier roman Mort au premier tour et qu'on va retrouver dans Meurtre pour mémoire.
Ah oui. La deuxième aventure, normalement, c'est Le Jeu inachevé et après c'est Meurtre pour mémoire, mais là ça a été inversé. Tout simplement parce qu'il y avait urgence, le Meurtre pour mémoire. C'était un roman noir et en même temps une biographie sauvage de Maurice Papon. Donc il y avait, on était en 83 quand. J'ai cogné à la porte de la série noire. Et donc là, on était en plein dans la révélation du rôle historique de ce personnage. Donc il y a eu ce livre-là qui a été choisi en premier. Et en même temps, il y avait un intérêt aussi pour ce livre particulier de la part de Robert Soula, le directeur de la série noire, qui était un ami de Boris Vian, de Prévert, donc qui avait participé à la naissance de la série noire avec Raymond Queneau et tout ça. Et tout simplement, lui avait été résistant. Et dans sa jeunesse, il avait été envoyé après la résistance dans l'armée. Et quand il faisait l'armée, il s'était retrouvé en Algérie en 1945, au moment où l'armée française bombardait avec les avions et puis avec les canons longue portée des navires Sétif, Guelma, et où il y a eu des milliers et des milliers d'Algériens qui ont été tués. Il y a des textes de Kateb Yassine là-dessus sur ces tifs. Et lui, Robert Soula m'avait dit qu'il avait vécu ça comme une trahison de sa jeunesse résistante, d'être embarqué dans une armée qui réprimait des gens qui résistaient à un système colonial. Donc, d'une certaine manière, pour lui, Meurtre pour mémoire, c'était un livre qui quelque part, le vengeait de ça, quoi.
Effectivement, Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, donc qui va être publié en 1984, s'appuie à la fois donc sur la période de la collaboration et sur l'événement du 17 octobre 61, le massacre des Algériens. C'est une enquête sur l'histoire par l'inspecteur Cadin qui va permettre d'élucider des crimes qui semblaient complètement improbables. Voilà. Pour vous, vous continuez donc dans le genre du roman noir. Est-ce que le genre du roman noir permet justement cette enquête dans le passé? Est-ce qu'il y a une dimension rétrospective qui est intrinsèque au roman noir?
En tout cas, moi, c'est la conception que j'en ai eue dès le départ. C'est pas partagé, parce que dans le roman noir, tout est permis. Mais moi, j'ai privilégié cet aspect-là. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré qu'à la première page d'un roman noir, la catastrophe était arrivée. Le point de vue de l'enfer, c'est-à-dire que la personne principale a disparu. Et ensuite, dès la première page, on plonge dans le passé, c'est-à-dire qu'on fait une enquête sur quoi ? Sur les traces. Et donc, il y a des traces qui sont à disposition. Aujourd'hui, l'ADN, avant les empreintes digitales, mais pas que ça. Les paroles que quelqu'un a pu prononcer, les souvenirs qu'il a laissés, le bien qu'il a fait, le mal, tous les objets qu'il a laissés derrière lui. Donc, l'immensité des traces humaines derrière un individu. Donc, on travaille là-dessus. C'est une sorte d'archéologie sur la victime, avant tout, pour moi, le roman. Et donc, ce rapport au passé est, pour moi, absolument évident. Donc, voilà. Et à chaque fois, mes romans sont construits de cette manière. Là, et d'une certaine manière, c'est une sorte de monument aux victimes. C'est-à-dire que cette personne dont on a été privé de manière abrupte et injuste, d'un seul coup, elle revit par le roman. D'un seul coup, on lui redonne absolument son apparence et sa dignité, son histoire, ses relations. Ça, l'enjeu du roman, il est là. Et donc, Morte pour mémoire, au-delà de l'enquête policière, de l'enquête historique, c'est les gens. D'une manière manifeste, le roman commence par des noms et des prénoms, Kaira Gelanine et ainsi de suite. Donc c'est les noms des victimes. Il y a des gens qui ont été tués, donc on ne connaît pas les noms. On a nié leur existence, on a nié leur mort pendant des dizaines d'années. Et donc chaque chapitre de mon roman commence par leur nom et prénom. Et la forme de la page, un petit peu en hauteur comme ça, c'est la forme d'une plaque tombale. Et donc, d'un seul coup, on dit, voilà, vous avez existé et il y a des gens qui se souviennent de vous. Donc ça, cette dimension du roman, particulièrement pour Meurtre pour mémoire, c'était un enjeu absolument essentiel.
Alors effectivement, il y a eu, après le 17 octobre 61, un silence absolu dans la presse, des institutions, etc., sur ce massacre. Et vous fouillez dans Meurtre pour mémoire les faits, les documents, etc. Comment ce roman, à sa parution, a-t-il été perçu, à la fois par le public et par les institutions?
Alors, il y a eu un silence critique, assez étonnant pendant plusieurs mois, comme ça, mais en même temps, un bouche à oreille, c'est-à-dire que ce livre, tout un tas de gens qui avaient vécu la guerre d'Algérie l'ont pris en compte, donc ça a fonctionné comme ça. Il y a toute une série d'acteurs de la solidarité au FLN, des gens comme François Maspero et ainsi de suite, qui ont complètement pris en charge ce livre, qui l'ont fait lire, et énormément de gens dans l'éducation nationale, où il y avait quelques bribes de communication sur la guerre d'Algérie, et beaucoup de profs se sont saisis de l'existence de ce livre pour le faire lire, non pas le mettre au programme, mais le faire lire en lecture libre, comme ça, par les élèves dans les universités. Et il s'est produit une sorte de mouvement souterrain autour du livre. Le livre est devenu un petit peu un livre culte en quelques mois, comme ça, et ça a poussé un petit peu quelques organes de presse à en parler, mais comment, par exemple, il est paru en janvier 84, j'ai eu mon premier article dans Le Monde sur Meurtre pour mémoire en 1991, donc le mouvement souterrain a quand même soutenu ce... Oui. Mais mon premier roman avait mis 4 ans et demi à être accepté, donc je m'étais fait comme ça
à la temporalité. pour ce roman-là, et vous avez mené une véritable enquête, et vous êtes beaucoup documenté, et c'est un petit peu la méthode que vous adoptez pour chacun de vos textes. Pour celui-là spécifiquement, comment avez-vous procédé pour cette
documentation ? Moi, j'adopte une méthode. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je voulais faire un roman qui parlait de Charonne. Donc la manifestation de février 62, au cours de laquelle l'amie de ma mère, Suzanne Martorell, avait été tuée. Et puis en travaillant sur Charonne, en février 62, je m'aperçois que de l'importance de ce qui s'était passé en octobre 61, 4 mois plus tôt. Et donc j'ai complètement dévié. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout, moi, comment on faisait de la documentation. Donc je suis allé m'inscrire à la Bibliothèque nationale, qui était une très très belle bibliothèque, rue de Richelieu, qui était tout à fait fréquentable. Et comment j'y ai passé des journées entières à lire. Et puis, à un certain moment, il y a les conservateurs comme ça, qui sont des gens qui font vivre le service public. Ils vous disent, vous vous intéressez à ça, mais vous n'avez pas que les livres, vous avez aussi l'iconographie. Vous pouvez avoir là-bas, il y a dans des cartons, il y a les tracts, il y a les affiches, si vous vous intéressez à ça. Donc j'y suis allé. On m'a montré comment utiliser les fichiers. Et d'un seul coup, on tombe sur des cartons où à l'intérieur, il y a les tracts interdits, les journaux interdits, et ainsi de suite. Donc vous avez ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire à l'époque. Donc vous voyez sur quoi porte l'interdit de l'époque, et ça, c'est essentiel. Donc voilà, j'ai fait un travail de ce genre-là. Ensuite, à Aubervilliers, moi, comment ma sœur porte un nom algérien, s'est mariée avec un Algérien qui tenait un restaurant couscous, le bar des amis à Aubervilliers. Donc je suis allé le voir et j'ai dit, 17 octobre, c'est quoi ? Il me dit, pourquoi tu me poses cette question-là ? J'ai dit, je m'intéresse au 17 octobre. Il me dit, moi, j'y ai pas participé, mais Monsieur Jean. Alors Monsieur Jean, c'est un kabyle, mais il porte des prénoms passe-partout, comme ça. Et donc je suis allé le voir, il m'a raconté, puis il m'a envoyé sur... Et peu à peu, comme ça, j'ai eu une mémoire du 17 octobre qui s'est constituée. Et puis un jour, j'ai pu accéder avec ça à des documents bouleversants. C'est-à-dire que le FLN, qui a été surpris par l'ampleur de la répression et le nombre de morts, a demandé aux survivants, aux blessés, comme ça, de raconter ce qu'ils avaient vu. Et donc, il y avait beaucoup qui étaient analphabètes. Un des aspects de la colonisation, c'est l'analphabétisme d'une grande partie de la population algérienne en 1961. Et donc, il y avait des écrivains publics, un peu comme ça, qui écrivaient sous la dictée. Et il y a une dizaine de lettres de 1961, d'Oxo 61, qui sont disponibles, qu'on peut lire. Et là, on a le battement de la manifestation, minute par minute. Puis ensuite, je suis allé à la BPI de Beaubourg, la Bibliothèque publique d'information, qui est extraordinaire. C'est une bibliothèque où vous allez vous servir vous-même, avec un personnel qui vous guide aussi, et des gens passionnés. Et donc là, je suis tombé sur des choses qui doivent exister dans un coin encore. J'avais besoin de décrire tous les bidonvilles de Nanterre pour le début, comme ça, quand les gens partent pour aller à la manifestation et faire vivre les personnages. Et là, il y avait un montage diapo d'un sociologue qui avait passé des mois dans les bidonvilles de Nanterre, qui les avait photographiés en diapo et qui avait interrogé les gens et qui savait quand ça avait été acheté, construit, combien il y avait de pièces, où était le boucher du bidonville, le coiffeur et tout. Une richesse absolument incroyable. Et donc j'ai empilé les connaissances de cette manière-là, mais j'ai inventé mes propres méthodes. Et donc il y a pas tout ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle en journalisme des sources ouvertes. N'importe qui aurait eu un projet de comprendre le 17 octobre 61 et tout, pouvait tomber exactement sur les mêmes sources. Et je crois que l'impact du livre, c'est le fait d'avoir concentré tous ces éléments-là. Et donc, d'un seul coup, on a une vision globale de ce qui s'est joué cette nuit-là dans les rues de Paris. Donc, à proprement parler, dans le livre, il n'y a pas de révélation. La révélation, elle est dans le fait que, d'un seul coup, ce ne sont plus des bribes, ça existe en tant qu'événement global.
Alors, dans vos textes, Didier Denynx, dans vos fictions, il y a comme ça ce travail d'enquête que vous menez et qui est ensuite pris en charge ou prolongé par vos personnages et notamment donc dans le cycle Cadin, votre inspecteur récurrent, un Cadin va prolonger l'enquête. on a l'impression que la vérité ne peut pas non plus être dévoilée par n'importe qui. Cadin, c'est un personnage qui est fragile, vulnérable, qui semble ne pas être forcément très bien adapté dans le milieu de la police dans lequel il évolue. Est-ce qu'il est important d'avoir ce type de personnage pour révéler la vérité ?
Oui, j'ai l'impression, c'est comment ? C'est quelqu'un qui est dans un état de totale fragilité et un personnage qui comprend qu'il est un des rouages du pouvoir et qu'il accepte absolument pas d'être ce rouage du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est en sorte de dissidence interne. C'est-à-dire qu'il y a, à partir de ce moment-là, ce personnage, il n'est pas manipulable. Il n'y a aucun enjeu pour lui qui existe sur ce plan. Et donc, cette espèce de désespoir total qu'il a comme ça le rend libre. Donc la liberté, elle est au prix du désespoir dans le personnage de Cadin. Donc il livre les choses, non pas qu'il n'en a rien à faire, au contraire, ça lui tient fortement à cœur, mais cette vérité-là, elle est plus importante que sa propre vie, et il sait que le silence est une prison. Donc ce que lui demande la hiérarchie, c'est le silence. Et il se refuse complètement à rentrer dans la prison du silence. Donc c'est comme ça que ça se joue pour moi, pour ce personnage.
Pour vos personnages et la structuration de vos textes, les déplacements des personnages sont fondamentaux. Ils se déplacent donc de lieu en lieu, de ville en ville, tout le temps. Parce que la ville, le lieu, la ville, donc qu'elle soit petite, grande, que ce soit la ville, parle aussi et révèle des choses, révèle aussi parfois la violence de l'effacement de l'histoire qui peut être orchestrée par les pouvoirs.
Oui, parce que ça vient d'ici, ça vient de la banlieue, mais ça vient du nord, ça vient des régions industrielles de l'est. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens prennent des pincettes pour traiter le paysage. Hein. Et puis dans des endroits, ça se fait, les retouches se font au bulldozer. Et donc il y a des endroits qui ont droit aux ruines et des endroits qui n'ont pas droit aux ruines. Par exemple, il y a une célébration des ruines partout dans l'Europe, le patrimoine et ainsi de suite. Et il y a des endroits comme ici, alors il y a des endroits où on laisse les choses vieillir, aller jusqu'à leur terme. Et d'un seul coup, il y a la patine du temps qui vient là. Et puis il y a d'autres régions, comme ici, comme Aubervilliers, la Courneuve, mais ça peut être Hénin-Beaumont, ça peut être Longwy, et ainsi de suite, où on prend des gens, on leur dit, vous sortez de la maison où vous êtes né, de cette barre-là, on va y mettre de la dynamite, puis on va vous mettre une estrade et vous allez regarder ça. Et d'un seul coup, l'endroit où ils ont vécu pendant 30 ans implose, comme ça, ça fait comme des bâtiments qui tombent, comme des éléphants morts, comme ça. Et on pense que les gens vont applaudir. Puis quand on les regarde, ils sont en train de pleurer. D'un seul coup, tous les souvenirs, comme ça, s'en vont en une fraction de seconde. Alors que l'humain, même si l'endroit est moche, il a besoin de s'en détacher dans le temps. Il y a vraiment le temps permet véritablement de gérer l'effacement. Et donc il y a des endroits où on n'a pas droit à ce temps de l'effacement qui est le temps humain. Et c'est ce que ça signifie un petit peu dans les romans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mon personnage, il est en voiture souvent, et autour de lui, c'est comme un travelling sur des endroits il avance et ça disparaît derrière lui. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais revenir en arrière, parce qu'en arrière, il n'y a plus de traces pour lui. Et donc, on abolit la compréhension, on abolit plein de significations, d'empathie, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que ça dit. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de choses comme ça, hein, dans la région Lorraine. J'ai écrit sur la région de la Lorraine, de la chute de la sidérurgie à la fin des années 70. Des endroits entiers, des endroits qui font plusieurs kilomètres, qui étaient démontés pièce par pièce, et toutes ces pièces d'ensemble sidérurgique qui étaient mis dans des trains. Les trains partaient vers le Havre, tout était référencé, et après ça partait en Chine, et on a reconstruit les mêmes usines qui étaient là, mais des usines de plusieurs kilomètres de long. Et puis ce qu'on pouvait pas détruire, on le faisait sauter la dynamite. Je suis allé à Trissin-Léger, il y avait une entreprise sidérurgique énorme, ils ont pas pu faire sauter les soubassements des hauts fourneaux, parce que sinon ils faisaient sauter la ville à côté. Et donc vous avez tous les soubassements des hauts fourneaux qui sont là, on dirait des restes de temples incas qui sont là. Et après ils ont mis de la terre par-dessus, ils ont fait un parc paysager. Donc c'est il y a quelque chose. Et pareil, dans les villes où j'habite, ça se passe véritablement pas de cette manière-là. Un endroit, les Champs-Élysées de la banlieue, ils étaient porte de la chapelle. C'est-à-dire que quand les rois partaient pour aller à la basilique de Saint-Denis, où sont enterrés les rois, il y avait une voie royale avec des contre-allées et ainsi de suite. Quand l'autoroute est arrivée, l'autoroute A1, ils l'ont creusée, ils en ont fait une énorme tranchée, un égout à voiture, et un des très beaux endroits de la banlieue a été complètement aboli. On ne ferait pas ça sur les Champs-Élysées, hein, mais c'est exactement ce qui s'est fait ici, c'est-à-dire cette espèce de regard où les gens ne comptent pas. Je ne sais pas si c'est du mépris, mais les gens ne comptent pas. Et comment on peut véritablement imprimer cette violence sur leur paysage, ils y seront insensibles.
Le lieu, la ville, ces métamorphoses ou son effacement sont en moyen aussi de compréhension de l'histoire Didier Denynx. Et vos personnages fixent des traces, et vous aussi en tant que romancier, vous fixez des traces. De ce point de vue, et de la manière dont vous procédez aussi avec toute la documentation que vous rassemblez pour écrire, votre travail, c'est la narration de l'histoire, presque comme un historien. Est-ce que vous vous sentez proche aussi de la démarche d'un historien?
Oui, et il y a des historiens qui m'ont fortement, fortement aidé dans la réflexion. J'écris sur 14-18 des gens comme Nicolas Offenstadt, sur la banlieue, quelqu'un comme Philippe Vidolier. Enfin, il y a énormément de... Et puis sur tout ce qui est autour du colonialisme, des gens comme Pascal Blanchard, comme Françoise Vergès. Donc il y en a énormément d'écrivains comme ça qui vous donnent fortement de l'énergie, qui vous montrent que vous êtes sur un terrain un petit peu aventureux, mais qui a du solide. Donc il y a ça, ça rassure un petit peu, puis qui vous ouvre des portes, des horizons. Il y a ça, et en même temps, je m'en sens extrêmement, extrêmement éloigné. Parce que je ne travaille absolument pas comme un historien. C'est pour une part, j'utilise des techniques d'historien sur les documents, mais ce qui m'intéresse véritablement, c'est de faire passer une époque dans les veines d'un personnage. Donc, ce qui comptera toujours pour moi, c'est les personnages et les situations, et non pas le fait historique. Et donc là, on diverge complètement, mais une partie des textes littéraires, des fictions que j'ai écrites, ont été des ouvertures pour les historiens. Donc autant ils m'ont aidé, autant sur certains textes, que ce soit Meurtre pour mémoire ou Cannibale ou ainsi de suite, mes textes, la manière de saisir l'histoire par la fiction a été pour eux une ouverture.
Vous quittez le Parti communiste en 1981.
Oui.
Est-ce que cette décision est liée au processus d'écriture et au fait que vous mettez véritablement et sérieusement à écrire? Est-ce que vous aviez besoin de ça, peut-être, pour vous affranchir totalement?
Non, 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 c'est beaucoup plus simple. 1980, parce que je recommence à écrire véritablement plus tard, 82, 83, pour Meurtre pour mémoire. 81, c'est extrêmement simple. Il y a une élection présidentielle. Il y a un deuxième tour entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et ici, en Seine-Saint-Denis, une grande partie de l'appareil du Parti communiste, hein, pas les militants de base et ainsi de suite, mais l'appareil appelle en sous-main à voter Valéry Giscard d'Estaing pour barrer la route à Mitterrand. Donc je vais voir les responsables et je leur dis: mais vous êtes complètement fous, si jamais vous voulez appeler à voter Valéry Giscard d'Estaing, il faut le dire, il faut faire des affiches, des articles et assumer votre choix. Et en fin de compte, c'était une manœuvre d'appareil. Donc là, on est en face du pire mensonge politique. Donc là, j'ai dit j'arrête, c'est terminé, j'assumerai pas ma part de mensonge sur ça. Donc ça a été une rupture sur ça. Donc là, on est un petit peu dans la peau de l'inspecteur Cadin.
La fin des années 89, c'est évidemment la chute du mur de Berlin, qui précède de peu la parution du Facteur Fatal en 90, où l'inspecteur Cadin se suicide, vous faites mourir votre personnage récurrent, comme si ce personnage-là devenait totalement caduque après 89. Donc ce sont deux événements qui sont liés et qui montrent aussi la déréliction dans les années 80, qui est parallèle à la déchéance aussi de l'inspecteur Cadin.
J'ai jamais pensé Cadin, Caduc, mais voilà. C'est la fin des années 80, ça a été des années tragiques pour ceux qui avaient encore quelques illusions. Elles ont été véritablement passées aux concasseurs. Et comment ? Autant les années, milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, il y a eu une décennie où on avait vraiment l'impression que la société française respirait mieux. Chaque mois, il y avait quelque chose qui agrandissait l'espace de liberté. Ça a été le droit à l'avortement, toutes les lois sur la sexualité, le droit de vote, enfin, après les radios libres. Enfin, il y a eu toute une série de choses comme ça. Et puis, une sorte de maîtrise du corps et de l'esprit, hein, dans la société. Et ça, c'est comme si le balancier comme ça, de la liberté allait dans le bon sens et redonnait un petit peu d'espoir à chacun. Et puis j'ai l'impression que ça s'est figé au milieu des années 80, quoi, au moment du deuxième septennat de Mitterrand. Là, d'un seul coup, c'est reparti en arrière. Et la fin des années 80, on est dans une société où l'air se raréfie, où la sensation de liberté devient comptée. Et donc là, on est dans un mouvement comme ça, régressif de la société. Et on est 83, 84, 85, montée des périls, montée du Front National, des idées d'exclusion, la solidarité comme ça, comme on nous est véritablement compté, le doute sur toute une série de pensées progressistes et tout. Donc moi, ça, j'en ai eu véritablement conscience. Et de le voir dans des individus, c'est-à-dire d'être confronté à des discours qui sont des discours extrêmement agressifs, des discours qu'on croyait totalement révolu. Donc l'inspecteur Cadin, il est comptable de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il il s'aperçoit véritablement que lui, en tant que gardien de l'ordre, il est inspecteur, il doit faire respecter une loi. Et pendant toute une partie de sa vie, il a fait respecter une loi qui ne cessait d'agrandir l'espace de liberté. Donc la loi reculait pour que les individus aient plus d'espace. Et là, il s'aperçoit que les lois, c'est des lois qui, peu à peu, rétrécissent le territoire. Et il se retrouve confronté à ça, faire respecter des lois avec lesquelles il est en désaccord. Et donc mon personnage, à partir de ce moment-là, il ne peut plus du tout fonctionner.
Merci beaucoup Didier Denynx et à demain soir.
Merci.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Didier Denynx. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Didier Denynx.
France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Didier Denynx dans un feuilleton réalisé par Jean-Mathieu Zand.
Pages arrachées à Didier Denynx. texte choisi par Sylvie Balul. Aujourd'hui, extrait de la nouvelle « Passage d'enfer », paru en 1998.
« 11 mai 1998, Palais de justice de Paris. Marie-Aude Talin récapitulait dans sa tête la liste des invités. À une certaine qualité de silence autour d'elle, elle comprit soudain que c'était à son tour de parler. Elle se leva, agita les mains, les poignets, pour faire glisser l'étoffe, prit appui sur la barre et laissa peser son regard sur les avocats de la partie adverse avant de se tourner vers le président et ses deux assesseurs. Elle laissa s'installer le silence. Elle avait posé près d'elle une pile de documents annotés. La profusion de marque-pages dépassant des tranches des livres, les post-it fluo collés sur les fiches, n'appartenaient pas tous à l'affaire jugée en cette étouffante fin d'après-midi. Un tiers tout au plus, mais elle en disposait comme d'un rempart de papier destiné à dissimuler la pauvreté de son argumentaire, un faux semblant. Deux ou trois pièces de moyenne importance, repérées par de minuscules trombones violets, y étaient dissimulées, et elle prendrait tout le temps d'aller les prélever, au milieu de sa plaidoirie, de les brandir, pour souligner encore davantage la force supposée de ses positions. Après avoir rappelé les grandes lignes de l'affaire, du point de vue de son client, Marie-Aude se pencha vers sa documentation et tira un procès-verbal fortement annoté, posa des lunettes à fine monture sur son nez.
« Je voudrais lire ce que Madame Sommer déclarait à la police le soir même de l'agression. L'homme qui s'est jeté sur moi dans le parking souterrain où je venais reprendre ma voiture était de taille moyenne et de type maghrébin. Je voudrais vous faire remarquer, Monsieur le Président, qu'il me semble que cette caractérisation n'est pas celle qui viendrait communément à l'esprit pour décrire Abdelhaï Bouziz. Vous pouvez constater qu'il a la peau très noire, et que dans un premier mouvement, on serait enclin à le dire plutôt africain. J'aimerais demander à Madame Sommer ce qui l'a poussé à le désigner comme maghrébin. »
Une femme à la cinquantaine enveloppée s'extirpa d'une travée et rejoignit l'avocate près de la barre.
« C'est les policiers qui m'ont dit qu'il fallait pas mettre arabe ou noir pour pas que ça fasse raciste. D'après eux, maghrébin, on peut l'écrire. C'est plus correct. »
Marie-Aude se pencha vers la plaignante.
« Ils ne vous ont rien suggéré d'autre dans votre déposition ?»
L'avocat de Madame Sommer se dressa dans un froissement de linge.
« Ces insinuations sont intolérables, Monsieur le Président. Intolérables. Maître Talin est coutumière de ce genre de diversion. Elle tente de semer le trouble en nous faisant perdre le cœur du débat, en suggérant que la police aurait manipulé Madame Sommer et nous aurait offert un coupable idéal. » Monsieur Bouziz est noir, c'est évident, mais cela ne l'empêche nullement d'être maghrébin. J'ai sous les yeux sa fiche d'état civil qui nous apprend qu'il est né à Modrab, dans le sud marocain. Et que je sache, ce pays est partie intégrante du Maghreb.
Au sourire discret avec lequel le président lui rendit la parole, Marie-Aude sut qu'elle avait marqué un point. Cet avantage pris d'entrée lui permit de ménager ses effets, de différer ses autres attaques en fin de plaidoirie, et quand 2 heures plus tard le jugement fut mis en délibéré, la peine réclamée contre Abdelhaï n'était que 1 an de prison, dont la moitié sous le régime de sursis. Elle vint lui dire quelques mots d'apaisement avant que les gendarmes ne l'emmènent vers la souricière. Puis, elle déposa ses affaires au vestiaire. Victor l'attendait engoncé dans la moleskine Litvin sous la pendule cuivrée du bar du palais, promenant sur le monde son regard des mauvais jours. Elle se pencha pour lui effleurer les lèvres et commanda un bourbon.
« Tu vas bien ? Ça s'est passé comment avec Irène ? Elle a lu ce que tu as écrit pour elle ?»
Victor hocha la tête.
« Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Le traquenard de la dernière fois, c'était pas un hasard. Tout à l'heure, elle s'est jetée sur les 2 chapitres que je lui apportais. Un truc sur l'Inde, cette fois. Elle les a lus, puis m'a fait entrer dans le salon. On devait être seul normalement, mais il y avait 10 de personnes. À peu près les mêmes que l'autre semaine. »
Marie-Aude fit tournoyer le glaçon sur les bords de son verre.
« Elle est chez elle. » »«
Oui, je sais. Madame est ambassadrice, ou plutôt femme d'ambassadeur. Et comme cela ne comble pas son ego, elle se pique de devenir écrivain de renom. Comprends-moi bien, je me fiche de faire le nègre pour ton ami d'enfance. Je n'y mets pas la même passion que dans mes romans, mais j'y travaille sérieusement. »«
Personne ne te fait de reproche, Victor.
Je prends des notes, je me force à sourire. Personne ne se doute que la lauréate du Grand Prix de l'Académie française a un nègre. Tout le monde pense qu'elle a un gigolo.
Ce que tu n'as pas digéré, c'est d'avoir eu un prix prestigieux sous son nom alors que la critique dédaigne ce que tu signes.
L'avocate vida son verre d'un trait et le reposa près du cendrier. Il prit un cigario, il tendit son Dupont.
Irène sera là demain soir. Je l'ai invitée avec son antique ambassadeur. J'espère que tu ne feras pas de scandale.
Je me tiens toujours bien, c'est ce qui fait mon charme. Ton mari sera là, lui aussi ?
François est à Madrid depuis hier, pour une réunion au sujet de cette usine Renault qu'ils veulent fermer à Barcelone. Il m'a promis de revenir à temps pour la fête. Tu as prévu quelque chose pour ce soir ?
11 mai 1998, passage d'enfer. Le piétinement de sa propre dignité auquel s'était livrée l'ambassadrice distinguée travaillait Victor. Et il ne fit qu'une bouchée nerveuse, mécanique, des attentes de son amante. Marie-Aude fila vers la salle de bain florentine, s'installa sur le bidet en regardant les reflets de son corps morcelé par les éclats de miroir incrustés dans le marbre de la frise. Puis, une serviette autour des reins, elle se servit un généreux bourbon qu'elle sirota en vérifiant la liste des invités pour la soirée du lendemain. Victor vint poser une fesse nue sur l'accoudoir du fauteuil dessiné par Peduzzi dans lequel elle s'était levée et laissa traîner son regard sur les noms. Tout ce qui comptait dans le cinéma, le journalisme, l'édition ou la politique, était référencé, et une petite croix portée au crayon mine à la suite du patronyme majuscule indiquait l'accord de principe. « 12 mai 1998, boulevard Raspail. Guy Chapelain se soulagea dans l'édicule de co planté au coin de la sinistre rue Richard qui coupait le cimetière Montparnasse en deux parties égales. Il se rajusta et déboucha sur le boulevard, face au lycée technique Raspail qu'il avait squatté avec quelques amis de rencontre, quelques mois plus tôt, avant que la mairie n'en mure les issues. C'était le meilleur moment de la journée pour la manche. En 2 heures, il ramassait assez pour s'offrir un sandwich turc, quelques bières, et partager avec un copain de galère l'une des pioles qu'avait aménagé un boulanger du secteur dans les garages qu'il possédait, Porte de Gentilly. À 50 balles par tête de pipe, ça rapportait bien davantage d'héberger des clodos que d'abriter des autos. Il s'était arrêté devant les grilles du passage d'enfer, une cigarette au bec, les mains dans les poches de sa veste, à la recherche de sa boîte d'allumettes, quand un pouce décapsula un Dupont en or massif à 2 doigts de son nez. Il embrasa le bout de sa gauloise à la flamme bleutée, tira une première bouffée sans même lever les yeux vers son bienfaiteur.
« Merci, monsieur. C'est bien aimable à vous. »
« Les temps ont bien changé. Tu me donnes du « vous » et du « monsieur » maintenant ? Tu ne me reconnais pas, Guy ? Ou bien tu le fais exprès ?»«
Vous devez faire erreur, monsieur. »
La main s'abattit sur son épaule. Il ne chercha pas à se dégager.
« Ne fais pas le con, Chapelain. Je sais bien que c'est toi. À quoi tu joues ? Même le plus dingue des savants ne réussirait pas un clone aussi parfait. Tu te rappelles de moi ? Victor. Victor Dalozis. On était ensemble aux arts appliqués de 66 à 68. On se battait comme des chiens pour prendre le contrôle du comité de grève. Moi pour le compte de la Ligue et toi pour les Mao de l'Humanité Rouge. Ça y est, tu me remets ? Reste pas comme ça, dis quelque chose. »
Ce n'était pas la première fois que Guy Chapelain se retrouvait confronté à des fantômes de son passé. Jusqu'à maintenant, il lui avait suffi de rentrer la tête dans les épaules, de se dissimuler derrière des passants, des badauds, de fuir si par inadvertance les regards se rencontraient. Il n'avait en mémoire qu'une seule fuite panique, 1 an auparavant, quand il avait aperçu sa femme et son fils sur le parvis de la gare. Ce qui le fit capituler, c'était le poids humain de cette main sur son épaule, alors que tous, dans le monde normal, s'ingéniaient à fuir le moindre contact avec ceux d'en bas. Il sentit les larmes gonfler sous ses paupières. Les mots s'étranglèrent au fond de sa gorge.
« Salut. Salut, Victor. »
Puis il éclata en sanglots. Victor l'entraîna vers l'Istria. Guy Chapelain se confia, l'espace de 2 bières.
« Je ne veux pas t'emmerder avec toutes mes histoires. Elles n'intéressent personne. » Tu as autre chose à faire.
Victor était sincère quand il lui répondit qu'il repensait souvent à leurs affrontements idéologiques, 30 ans plus tôt, et qu'il s'était fait à plusieurs reprises le reproche de n'avoir pas maintenu de lien avec ses anciens condisciples.
Qu'est-ce que tu fais exactement maintenant ?
Je pleure comme un môme dès que j'ai une bière dans le nez. Je fais rien. Ou plutôt, j'essaie de survivre. Et ça demande des efforts absolument terribles. Je suis tombé dans la rue il y a 2 ans. J'avais une petite boîte de communication qui a plongé à cause d'un gros contrat qui m'a foiré dans les mains. Les dettes, les huissiers. Pour tout arranger, je venais juste de divorcer. En 3 mois, je n'avais plus rien. Plus de carte de crédit, plus de bagnole, plus de logement, plus de téléphone mobile. Rien. Le trou noir. Quand tu en es là, il ne te reste plus qu'une chose. Ta dignité. Il faut se maintenir debout, se laver, se raser, laver ses fringues. Sinon, tu es fini. Tu ne vaux pas plus cher que la merde de chien qui est posée à côté de toi sur le trottoir. J'en ai vu passer, crois-moi. Le signe que ça se détraque, c'est quand le mec pisse en pleine rue contre la façade d'un magasin ou dans un recoin. Il ne faut pas perdre le respect. Je me suis toujours battu pour avoir les 2 balles d'un deux coups.
Il assécha son demi-triple blonde et picora quelques chips.
Je ne vais pas te réciter Les Misérables, ni rien d'original. Tu les connais aussi bien que moi. Tu fais toujours de la peinture ?
Victor fit teinter ses glaçons au fond de son verre.
Non, j'ai laissé tomber. Complètement. Je n'ai pas tenu un pinceau depuis au moins 15 ans. On m'aurait dit ça à l'époque.
Tu fais quoi alors ? En tout cas, tu as bonne mine. Tu as l'air de bien t'en tirer.
Il haussa les épaules par modestie.
J'écris. J'ai publié 3 ou 4 romans et des nouvelles par-ci par-là.
Je passe pas mal de temps aux devantures des librairies, mais j'ai jamais vu ton nom sur une couverture. À moins que tu signes sous pseudo, c'est assez courant.
Victor chassa le spectre du nègre de l'ambassadrice.
Non, j'ai toujours affiché la couleur. Victor Dalozis. Je ne suis pas en tête des ventes, mais comme on dit, je bénéficie d'un succès d'estime. J'ai quelques exemplaires de mes bouquins juste à côté chez une amie. Elle organise une petite fête, le buffet est toujours somptueux. Viens manger un morceau avec nous.
Guy Chaplin n'avait rien avalé de sérieux depuis le matin, et la bière belge lui tournait la tête. Il se laissa conduire. Mai 1998, 22h, passage d'enfer. Victor et Guy poussèrent la grille sur la rue Campagne Première et s'engagèrent dans le passage d'enfer. L'appartement de Marie Aude et François Talin avait été aménagé sur les 3 niveaux précédemment occupés pendant plus d'un siècle par un relieur-gaufreur et ils avaient tenu à conserver au rez-de-chaussée un peu de l'atmosphère particulière des ateliers. L'ameublement moderne mettait en valeur les armoires à casier, les outils de l'artisan. Victor salua la majeure partie des 30 personnes qui peuplaient fauteuils et canapés, se tournant vers Guy, entre 2 effleurements, pour lui dresser l'inventaire des invités.
Lui, il est dans ta partie. C'est Bourdex, un des meilleurs amis de François, le mari de Marie-Aude. Il dirige le secteur communication institutionnelle de Publicis, la pub des ministères, des entreprises nationales. On reviendra prendre un verre avec lui, il pourrait être utile.
Ils accédèrent au premier buffet, celui des amuse-gueules, tenu par 3 jeunes serveurs en veste blanche, nœud papillon et pantalon noir. Canapé au caviar rose, lamelles de foie gras d'oie, dés de poisson fumé. Guy dégarnissait consciencieusement les premières rangées du plateau devant lequel il se trouvait, quand Victor le tira par la manche pour lui montrer un petit homme chauve au visage boursouflé, carrure de catcheur, les dents plantées sur un énorme cigare, qui venait d'entrer dans la pièce au bras d'une rousse somptueuse.
Tu le reconnais, celui qui arrive, là ?
Sa tête me dit quelque chose. Surtout ses yeux. Attends, laisse-moi me rappeler tout seul. C'est pas possible ! Ne me raconte pas que c'est Pedro.
Si, pourtant. J'ai bossé avec lui pendant plus de 3 ans quand il dirigeait la filière européenne d'aide aux déserteurs américains pendant la guerre du Vietnam. Un des types les plus efficaces que j'ai jamais rencontrés.
Guy posa 2 canapés au foie gras l'un contre l'autre pour s'en faire un mini sandwich et avala d'un trait une coupe de champagne millésimée.
Il fait quoi maintenant que la guerre est finie ? Gorille pour rouquine ?
Je suis content de voir que le moral revient. Non, il compte ses sous. Grâce à ses contacts avec les milieux radicaux des États-Unis, il a tout de suite été en phase avec le développement de l'informatique. C'est parti des marginaux, bizarrement. Dès la fin des années 70, il importait les premiers ordinateurs conviviaux, les premières consoles de jeux. Aujourd'hui, à lui tout seul, il tient un bon quart du marché.
Ils croisèrent également quelques avocats en civil, un ponte des renseignements généraux en habit de tous les jours, des journalistes au repos, des écrivains désabusés, une chanteuse enrouée, un sénateur efflanqué, une actrice en Wonderbra, des producteurs de télé rêvant de cinoche et des fondus de cinoche bavant devant le fric de la télé. Ils écartèrent un groupe de jeunes gens qui faisaient circuler un joint en jouant l'ordre de l'inspiration cannabique au dé et grimpèrent au premier étage. Un second trio d'extras en veste blanche officiait derrière des étendues de terrine, de viande froide, de petits fours. Victor fut happé par un couple de bavards et Guy se réfugia à l'extrémité du buffet pour piquer quelques tranches de veau fines comme du jambon à l'aide de minuscules fourchettes de dinette. Il se fit servir un verre de Margot qu'il commença à déguster à petite lampée en regardant le passage d'enfer en contrebas. Il vida son verre, en prit un autre et s'installa dans un canapé. Les yeux clos, lèvres entr'ouvertes sur le nectar, il se laissa bercer par les conversations alentour qu'il captait en inclinant la tête d'un côté ou de l'autre. Une voix d'homme à gauche.
Quelle explosion sociale! On nous la promet deux fois l'an. Les experts nous assuraient, il n'y a pas si longtemps, que le pays ne supporterait pas de passer le cap des 3 millions de chômeurs. Or, on est officieusement à 5, et ça se passe pas si mal que ça.
Une voix de femme à droite.
Je suis allée voir cette exposition sur l'informe au MoMA à New York. Un papier que m'avait commandé Art Press. Une volonté de mise en accusation de la réalité par la mise en exergue des déchets, des ratés, des souillures, de l'ordure que nous produisons à profusion. Oh, le scandale était à son comble. Les tenants de l'art officiel condamnaient à longueur de colonne la dérive des modernes. Les femmes de ménage du MoMA ont mis tout le monde d'accord en déclenchant une grève illimitée. En moins de 3 jours, les détritus ont tout envahi. Le musée est devenu une véritable poubelle. Et on ne savait plus vraiment ce qui était de l'ordre de l'exposition et ce qui appartenait à la réalité.
Guy eut le réflexe de poser son verre sur une table basse et s'endormit. 13 mai 1998, 4 heures du matin, passage d'enfer. Personne n'aurait pu dire exactement qui avait le premier entonné les nouveaux partisans, un hymne maoïste que Dominique Grange avait gravé dans la cire au début des années 70 et qu'elle chantait accompagnée par le chœur des dirigeants de la gauche prolétarienne. Ils avaient tous repris en chœur, journalistes, avocats, publicitaires, juges d'instruction, sénateurs, écrivains, marchands d'ordinateurs. Au son de l'Internationale, les conteneurs à ordures furent promptement traînés sur les pavés, ainsi que des cajots, des emballages de fruits et légumes, de robots mixeurs, soigneusement empilés près du platane par l'épicier vietnamien et le vendeur d'électroménager. Un matelas compissé par tous les chiens du quartier, une vieille télé abandonnée et un frigo aux parois poisseuses d'huile de friture complétèrent le dispositif des émeutiers du petit matin. Des volets couinèrent, des fenêtres bâillèrent dans les étages. On crut tout d'abord à une offensive nocturne des hommes en vert de la propreté de Paris.
Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Il y en a qui dorment ! C'est pas une heure pour ramasser les ordures !
Les premières canettes de bière éclatèrent sur le pavé inégal de la rue, indiquant clairement que l'engagement venait de franchir un sérieux seuil. Victor tenta de riposter en jetant une bouteille vide de champagne millésimée vers les étages, mais le cadavre décrivit une trajectoire minable, entortillée, et vint s'écraser aux pieds de Pedro. La femme de l'antiquaire courut vers l'appartement de Marie-Aude et les assaillants interprétèrent son repli comme une fuite. Mais elle réapparut presque immédiatement en faisant flotter au-dessus de sa tête un foulard rouge. Le rédacteur en chef de Chasseur de Profil, le magazine du recrutement haut de gamme, se dévoua pour l'accrocher au bout d'un manche à balai qu'il planta à l'arrière du réfrigérateur. 13 mai 1998, 5h30 du matin, passage d'enfer. Le chauffeur de la limousine du ministère du redéploiement industriel s'engagea dans la rue Campagne Première et vint se ranger devant les grilles du passage d'enfer. François Talin s'extirpa du creux de son siège, prit sa mallette et sortit à reculons. Il tendit la main à l'homme qui somnolait à l'autre bout de la banquette.
« Merci de m'avoir déposé, monsieur le chef de cabinet. À très bientôt. »
Les cris et les imprécations redoublèrent d'intensité dès qu'il eut claqué la portière. Il reconnut les accents de la jeune garde qu'il se mit à fredonner tout en remontant la première partie du passage. Il découvrit l'amas hétéroclite alors qu'il dépassait l'angle droit et se souvint qu'entre deux séances de négociations avec le gouvernement espagnol, Marie-Aude lui avait brièvement parlé au téléphone d'une soirée mai 68 qu'elle envisageait d'organiser dans leur nouvel appartement. Le problème, c'est qu'elle en faisait toujours un peu trop. Il monta directement au premier étage. Marie-Aude se pencha pour embrasser son mari et prit place face à lui.
Tu as faim ? Tu veux quelque chose de particulier ?
Il se pencha vers la fenêtre pour assister à la lente retraite des émeutiers que saluaient les vivats des riverains.
Non, j'ai mangé dans le jet du glam en revenant de Madrid. Je vais prendre du champagne, ça me calmera les nerfs.
Les rescapés, au nombre d'une quinzaine, avaient maintenant approché des chaises, des fauteuils, et Guy Chapelain finit par suivre le mouvement. Le directeur de chasseurs de profil, qui faisait face à Guy, vida sa coupe et se pencha vers le haut fonctionnaire.
France Info a annoncé tout à l'heure que la fermeture définitive de l'usine Renault de Barcelone avait été acceptée par le gouvernement espagnol. Vous pouvez le confirmer ?
On ferme parce qu'ils se sont complètement plantés dans la détermination de leur target costing. Les coûts ciblés étaient délirants. Ils n'ont jamais réussi à trouver le rapport optimal entre la qualité de leurs produits et leurs coûts. Résultat, ils proposaient des voitures de très bonne tenue à des prix trop faibles et des tacos à des prix prohibitifs.
Guy posa son verre.
Et le plantage sur les target costing, ça fait combien de licenciements ?
3005, sans compter les effets sur la sous-traitance. En Espagne, le ratio est de 2. Personne n'aura le courage de le dire, mais il vaut mieux payer grassement des chômeurs que de maintenir certains secteurs en survie artificielle. En fin de compte, il revient moins cher d'augmenter le nombre de RMistes que de subventionner des industries obsolètes ou que de baisser la durée du travail. Chacun dans leur coin, ils se tiennent tranquilles. Ensemble, dans des ateliers à 20 heures par semaine, c'est la putaudière.
13 mai 1998, 7 heures du matin, passage d'enfer. Marie-Aude et François se tenaient enlacés devant les mosaïques agrémentant la façade qu'une rumeur aussi flatteuse qu'inexacte attribuait à Gaudi. La lueur orangée de la benne à ordures tournoyait dans le passage. La camionnette réfrigérée du traiteur vint se mettre à queue devant la porte-fenêtre. Les serveurs hagards commencèrent à y enfourner les reliefs de la fête anniversaire. François tenta d'entraîner sa femme dans la chambre conjugale, tout à l'idée de reproduire les figures érotiques qu'il avait surprises dans l'avion en glissant son regard entre les sièges sur la revue que lisait le secrétaire d'État. Marie-Aude échappa à l'étreinte conjugale pour filer vers la salle de bain florentine.
« Je reviens, j'ai besoin de prendre une douche. »
Elle fit glisser les fines bretelles sur l'arrondi de ses épaules. La robe tomba tout de suite, sans bruit, puis la lingerie. Marie-Aude enjamba l'amoncellement de vêtements. Le reflet nu de son corps se fondit dans la fresque, puis son ombre ondula sur le marbre. Elle contourna le jacuzzi et fit coulisser la porte de la douche hydromassante tout en réglant l'intensité de l'éclairage. Elle s'apprêtait à franchir la petite marche quand son regard accrocha celui, vitreux, de l'homme qui se balançait doucement au bout d'une corde dans la niche carrelée. Elle se rejeta en arrière et il lui fallut plusieurs secondes pour reconnaître dans ce pantin sans vie le type trop silencieux dont elle ignorait jusqu'au nom et que Victor avait traîné toute la soirée derrière lui comme un boulet.
C'était « Pages arrachées à Didier Deninx ». Extrait 2 « Passage d'enfer ». Avec Mohamed Rouhabi, le narrateur, et Delphine Léonard, Marie-Bénédicte Roy, Jacques Leplus, Bertrand Suarez-Pazos, Donatien Guillot, Igor Menjiski, Sidonie Laurence, Régis Chaussard, Michel Derville, Othello Vilgar, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, équipe de réalisation, Claude Niort, Emmanuel Armin, Alice Cachaner, Jean-Mathieu Zand. Passage d'enfer est publié aux éditions Gallimard, collection Folio. Oh, C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures. Toute cette semaine, Didier Deninx. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.
Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, 3 minutes à méditer.